Bonjour, bienvenue à cette lecture de Benjamin Fouché et Benjamin Adam. Donc Benjamin Fouché à gauche et Benjamin Adam à droite. Imaginez qu'un cyclone ou un gigantesque incendie ou une politique régionale un tantinet brutale ou toute autre catastrophe détruise tout d'un coup la majeure partie des livres, balayé les romans, disparu du livre de cuisine, perdu à jamais les guides pratiques. Imaginez que n'aient réchappé au désastre que quelques livres au hasard, quelques ouvrages de philosophie analytique particulièrement secs, des ouvrages de critique sociale ou de théorie révolutionnaire portés sur la semi-clandestinité, plus quelques pages de guides touristiques expérimentaux proposant aux lecteurs de dériver dans certains endroits malfamés du nord-est parisien, à quoi s'ajouterait une flopée de livres pour enfants miraculeusement sauvés. Imaginez que sous l'effet d'un mystérieux rayon vert ou d'un rayon U, les pages de ces livres et acquis la capacité de se reproduire entre elles comme des escargots. Imaginez les rejetons issus de croisements monstrueux entre un traité de Wittgenstein et les contes de Perrault ou entre un opus du Comité Invisible et Max et les Maxi-Monstres. Imaginez maintenant que ces pages se rassemblent telles des fourmis de papier pour former ensemble un nouveau livre. Imaginez que sur la couverture du livre apparaisse le nom de Benjamin Fouché, ici présent donc. Vous pouvez rouvrir les yeux et arrêter d'imaginer. Les livres de Benjamin Fouché ne sont ni des livres pour enfants, ni des livres de sciences humaines ou sociales à proprement parler, mais ils procèdent d'un branchement entre ces deux domaines, d'ordinaire confinés à des étages différents dans les bibliothèques ou les librairies. Il en résulte des courts-circuits tels que, je cite, « On ne peut pas se figurer un à un et systématiquement les 150 000 cheveux de réponse dans la bouche du salariat » ou bien qu'il a manqué, durant les grèves, conflits et occupations du printemps 2016, un comité Podan et forme de vie. On ne saurait dire si la littérature enfantine éclaire la critique sociale en y insérant une figure connue, ou si c'est la littérature d'intervention politique qui se voit d'un coup rechargée, car elle retrouve le désir enfantin, parfois oublié depuis longtemps par le lecteur adulte, le désir de découvrir le monde et d'y jouer son propre jeu. Découvrir le monde, notre monde, c'est, avec des moyens graphiques cette fois, ce que propose une partie du travail de Benjamin Adam via sa participation à la revue dessinée, revue qui offre des reportages en bande dessinée, ou via l'adaptation qu'il a réalisée du livre de l'économiste Thomas Piketty, Le Capital au XXIe siècle. Adaptation pour le moins nécessaire et pédagogique, qui rend le travail de Piketty sur l'évolution des patrimoines et donc sur les inégalités sociales largement plus accessible que le lourd pavé originel. Benjamin Adam travaille actuellement à un diptyque centré sur la catastrophe climatique. Inland 6, c'est le titre du premier tome paru. Cet horizon collapsologique, présent donc dans son dernier livre, son travail au moins depuis l'album Soon en 2019, album qui marque un tournant dans sa production, puisqu'il y renouvelle sa manière de dessiner, avant cela davantage marqué par la BD Underground, pour proposer un récit de SF particulièrement ambitieux, où l'exploration spatiale et l'exploration des territoires marginaux sont mises en parallèle sur une planète rétrécie à quelques villes habitables, après que la Terre se soit littéralement effondrée, engloutissant habitations et populations dans de gigantesques trous. Benjamin Adam a d'ailleurs prolongé cette veine dystopique dans l'album Uos, paru aux éditions 2024, devenu 2042, les éditions. Un album qui présente en quelques planches de très grand format, un format qui rappelle la célèbre collection 30-40. Donc, un album qui présente en quelques planches un aperçu de ce monde dévasté. Cette ambiance de fin du monde hante également Merveille du monde, le second livre de Benjamin Fouché aux éditions Aldante, puisque ce livre prend place au moment du Covid. Il est cette fois organisé autour d'une série de mails envoyés à diverses instances sociales, associations, comités exécutifs du NPA ou secrétariat de communication de M. Bolloré. Les mails se terminant presque toujours par des séries de questions bizarres, très argumentées, mais bizarres. Par exemple, trouveriez-vous éthique qu'on enterre les morts de la pandémie avec des tablettes de chocolat Merveille du monde? Et sinon, pourquoi? Ou bien, savez-vous s'il existe des poètes néo-latins au NPA? Et si c'est le cas, jugeriez-vous possible qu'elle se fasse passer pour Pétrone en déclamant des poèmes Porte de la Villette ? Point d'interrogation. Le procédé n'est pas sans rappeler, par exemple, les lettres de non-motivation qui adoptent une même posture d'idiot. Et l'idiotie, largement utilisée par les avant-gardes depuis le XIXe siècle, n'a rien d'une fantaisie. L'idiotie prolonge le geste de critique sociale. Idiotie comme pratique critique, car, et ça, tous les parents le savent et tous les enfants le font, il n'est pas de meilleure manière de miner une autorité que de lui poser en rafale des questions sur l'état du monde. À vous.
Jadis inculpé pour proxénétisme aggravé, un certain Xavier Niègue, devenu milliardaire après avoir investi dans les Peepshow et le Minitel Rose, décida de financer un 18 novembre sans une start-up. Tout candidat disposait d'une minute pour exposer son projet. Et à l'instant précis où le 56e quitte la salle et tourne le dos à Niègue, qui plisse du front et passe une main dans sa chevelure filandreuse lui tombant sur la nuque, au moment où il astique du bout des doigts deux ou trois mèches pour concentrer en un fil capillaire toute l'acuité intellectuelle qui fit de lui le roi du Peepshow et de la Freebox, voilà que s'ouvre un espace totalement neutre au projet d'application autour de la charge mentale, des data centers alimentés à la bouse de vache ou d'une gamification des rapports sociaux. À un mince intervalle entre bouse, game et vache, 2 ou 3 millimètres, remuant quelque part dans la nuque, à la racine du cuir chevelu peut-être, une tension contradictoire entre la masse homogène du startup pitch et la pure hallucination ressurgie d'une période glaciaire de l'enfance, ou plutôt la contradiction même maintenue entre le vrai et le faux, un troisième terme supplémentaire et non synthétique. 7 start-upers, barbus, 1m20, lui parlent d'une application qui en finirait avec la neige. Application sans genèse ni process, ou crypto-monnaie qui se forme naturellement par condensation d'algorithmes et saturation vaporeuse des données. Qu'on s'imagine une gamine au teint neigeux sortie de nulle part et dont l'image se diffracte sur tous les écrans, ou plutôt une sorte de bitcoin polyphasique, déformable, glissant, éphémère et en constante évolution. Une gamine tombant des hauteurs idéales d'un blockchain. Un capital crypto-neige nécessite pas mal d'algorithmes en surfusion, soit serveur, nœud de stockage, baisse NFC, voire NAS en rangée simple ou complexe. Et il y aurait une certaine poésie à les planquer en banlieue pour y recracher en toute discrétion la surchauffe des débits et des transferts. On l'appellerait « pour en finir avec la neige », puisque l'accroissement de tout capital, aussi fictif soit-il, nous acclimate réellement à des ciels clairs et des hivers tièdes. Telle fiction, soit sept nains, soumis aux cadences infernales de l'intérim, sept nains séquestrant dans leur cabane un supplément d'âme, à savoir une gamine pure et domestique qui embellirait la reproduction de leur force de travail. Telle fiction prend consistance dans ces gros bunkers postmodernes et que financent des milliardaires qui payent moins d'impôts en domestiquant l'art. La fortune de François Pinault est passée de 11,3 milliards en 2016 à 29 milliards en 2019. Ces trois dernières années, il a gagné environ 16 millions par jour, notamment en défiscalisant des capitaux, une fois main basse faite sur plusieurs milliers d'œuvres. Accumulation primitive de pigments, de couleurs, de formes, ou stratégie d'esthète que Challenge résume en ces termes. Il a reproduit dans l'art ce qui avait fait son succès dans le secteur du bois, contrôler toute la filière afin de squeezer les intermédiaires et optimiser ses bénéfices. Aussi, les fondations Vuitton au quartier ont des allures de gros congélos urbains qui vous proposeraient, une fois franchi la porte du freezer, des petits flocons, miraculeusement déposés aux simèses et qui parleraient le langage de l'âme. Ici, blanche est la neige et blanche est la neige. Un attribut tout intérieur du sujet, un logo à soi seul distinctif, laissant à Simplet tout loisir d'y cultiver ses émotions jusqu'à un degré d'innocuité inédit. Il paye un milliardaire pour que des petits pigments l'étourdissent ou le consolent, en conséquence de quoi Simplet touchant le SMIC, et qui passera 110 ans à gagner les 16 millions d'euros encaissés chaque jour par François Pinault, Simplet donc, sera toujours heureux d'enrichir un peu plus le dit Pinault en contemplant de jolis flocons de couleurs. Et quand bien même on imaginerait qu'en mutualisant leurs revenus, 7 nains au SMIC ne mettraient que 15 ou 16 ans à gagner une journée de François Pinault, ça ne changerait fondamentalement pas le problème. À savoir que Simplet, Hatchoum, joyeux, prof, dormeur, timide et grincheux, iront s'abrutir dans la poésie naïve et sentimentale des White Cubes pour oublier la réforme des retraites et la fin de la sécurité sociale qui les condamne à une mort misérable, pendant que François Pinault, ni une ni deux, se porte acquéreur de Maurizio Cattelan, artiste subversif selon le Figaro et la Gazette des Beaux-Arts, pour que ledit Cattelan lui dessine une pierre tombale et, Voilà qui est problématique. L'on n'imagine pas un seul instant les sept nains cracher ou pisser sur la dite pierre tombale. Je vais lire maintenant des mails qui sont restés sans réponse, voilà, envoyés durant le confinement d'octobre 2020. Date, samedi 3 octobre 2020, 19h44. Objet, pour que tout se passe dans la dignité et dans l'ordre. À l'intention de tous les résidents du foyer Adoma de la commanderie. Mesdames, messieurs, je procède actuellement à une enquête relative à des phénomènes d'apparition porte de la Villette. Il ne m'appartient pas d'émettre une opinion personnelle quant à la véracité, ou non, de ces phénomènes que l'on pourrait qualifier, pour être plus précis, d'audition. Il s'agirait en effet de voix qui apparaissent. Votre foyer à Doma étant situé au 15 boulevard de la Commanderie, c'est-à-dire au cœur même de la porte où apparaissent les dites voix, vous comprenez bien que j'aimerais vous poser quelques questions. Petit 1. Auriez-vous connaissance d'individus fréquentant le foyer de la commanderie qui parleraient latin, ou bien même qui le parleraient malgré eux? Petit 2. Pourriez-vous faire un lien, aussi fortuit ou ténu qu'il vous paraisse, entre certains résidents et les noms de Pétrone, d'Encolp ou de Giton? Petit 3. Vous est-il arrivé, à vous ou à d'autres personnes résidant et ou travaillant à la commanderie, d'entendre certaines phrases ou certains mots latins? Ou peut-être même simplement des sons qui semblaient appartenir à cette langue morte. Ces questions vous concerneraient au premier chef, des migrants, jeunes encore, ayant à peine quitté leur région subsaharienne, déracinés, sans le moindre soutien ferme d'un père, qu'il fût biologique ou spirituel, déboussolés par de multiples confinements, s'adonneraient à l'auto-hypnose porte de la Villette et entreraient en contact avec des voix latines en pratiquant assidûment le WIDE, Wake, Initiated, Lucid, Dream, une technique d'évasion des parapsychologues qui s'avère très vite addictive et dont on ne mesure pas encore tous les ravages dans les esprits malléables de l'âge tendre. Voix latine, addiction, dérive sectaire. Je comprendrai que tout cela vous inquiète pour le bien vivre ensemble de la commanderie. Toutefois, restons calmes et déterminés à l'entraide. Que la sérénité nous guide ainsi que ces paroles pleines de sagesse. Laissez venir à moi les petits-enfants et ne leur faites point de mal. N'oublions pas ces mots, ne laissons pas ces jeunes sur le bas-côté de la route, ni même porte de la Villette, si proche des rocades et prêts à s'abîmer dans l'excès, le stupre ou la turpitude. Aussi, quand bien même les couvre-feux sanitaires et les semi-confinements de ce mois d'octobre m'amènent à formuler mes questions dans un mail et non de vive voix, soyez assurés que je me tiens, via distanciel, à votre entière disposition et vous prie, mesdames, messieurs, d'agréer les marques les plus sincères de mon estime. Date, vendredi 9 octobre 2020, 20h49. Objet, question relative à vos adhérents. Madame, monsieur, je viens d'apprendre que vous êtes un des plus grands clubs d'astrophysique d'Île-de-France. Et puisque vous comptez parmi vos membres un grand nombre d'adolescents qui se passionnent pour les étoiles ou les supernovas, j'aimerais vous poser quelques questions. Avez-vous entendu parler de projection ou bien de sortie astrale parmi vos membres les plus jeunes? Certains adolescents, lors de vos séances nocturnes d'observation, se serait-il mis à parler latin? Du moins à murmurer des mots comme sestertium ou whiskera, ou les noms d'Encolp, Giton, Pétrone. Certains de vos membres manifestent-ils une curiosité que vous jugeriez excessive, voire déplacée, pour le New Age, les trous de verre ou la kétamine? Pardonnez-moi si ces questions vous semblent incongrues. Sachez que je mène un travail de terrain porte de la Villette. À ce stade, voyez-vous, l'affaire demeure dans l'indétermination la plus totale. Voilà les maigres faits qui peuvent être étayés avec plus ou moins de certitude. Petit 1, on aurait observé des phénomènes de trafic plus ou moins louches. Des voix circuleraient à l'état fantomatique, des bruits courts. Petit 2, on suspecte derrière ces trafics des formes de projection astrale, des rêves lucides peut-être, en anglais, les fameux ride explorées à Stanford par Stephen Laberge, ou bien des sensations de sortie du corps provoquées par des pratiques New Age et des substances illicites. Petit 3. Les rares indices dont nous disposons, pour le moment, tiennent en quelques phénomènes acoustiques et hallucinatoires qui entraient à la porte de la Villette. Ce sont des phrases latines dont, à notre connaissance, la plus longue serait à l'heure actuelle « Opiri modo oculos et fingete non humana viscera, sed centies sestertium comesse ». La phrase aurait appartenu à un certain Pétrone, un Romain qui se serait coupé les veines à Cume il y a près de 2000 ans. La matière parlerait donc une langue morte. Je compte néanmoins sur votre entière discrétion, tout aussi nécessaire que votre bonne volonté en ces circonstances. Cordialement. Date, mercredi 28 octobre 2020, 23h18. Objet, investir le mot Bolloré. Madame Patan, dans le cadre de ces recherches et expérimentations formelles, notre laboratoire souhaiterait vous poser quelques questions relatives au personnage de M. Bolloré. Depuis un certain temps déjà, figure commune contre fiction, investit des personnes publiques, ou plutôt leurs noms propres, considérés comme des personnages ayant une place toute naturelle dans des narrations communes. Nous envisageons actuellement d'utiliser le mot Bolloré afin d'appréhender autrement Where the Right Things Are, un livre pour enfants composé par M. Sendak et plus connu en France sous la traduction de Max et les Maxi-Monstres. Nous nous excusons par avance si vous jugez nos questions abstruses ou hors propos, n'y voyez que de basses considérations matérielles et pratiques. Auriez-vous connaissance, chez M. Bolloré, d'une fascination ou d'une attirance quelconque pour des palmiers qui poussent dans les chambres ou des bateaux qui croisent pendant un an et un jour? Nous voudrions croire possible que nos expérimentations offrent une nouvelle lecture du mot Bolloré, peut-être aussi captivante que celle de Max et des Maxi-Monstres. Certains membres du laboratoire pensent que d'écrire M. Bolloré parmi des palmiers qui poussent dans sa chambre infirmera tel propos, bien discutable, d'un journaliste. Actuellement, il passe pour le croque-mitaine. On a un peu l'impression que certains parents disent « Si tu ne t'endors pas très vite, je vais aller chercher Vincent Bolloré ». Savez-vous comment M. Bolloré réagit à l'idée de passer pour un croque-mitaine aux yeux des plus jeunes? Lui arrive-t-il d'être hanté par la vision de tout un peuple d'enfants qui roulent de terribles yeux ou qui poussent de terribles cris en écorchant son nom? Nous avons bien conscience que votre temps est précieux et que nos préoccupations doivent vous paraître bien futiles. Malgré cela, nous espérons de tout cœur que vous trouverez quelques minutes pour nous répondre et nous orienter au mieux dans nos recherches. Je vous prie d'agréer, Madame Patan, les marques les plus vives de notre considération. Date, samedi 31 octobre 2020, 21h28. Objet, candidature pour la bourse Sendak. À l'intention de M. Jonathan Weinberg, curateur de la Fondation Maurice Sendak. Monsieur, je me permets de candidater spontanément à la bourse que votre fondation décerne aux artistes soucieux de « raconter des histoires », pour reprendre vos propres termes. Depuis quelque temps, en effet, nous procédons à un travail de réécriture autour de « Where the Right Things Are », ou « Max et les Maxi-Monstres », dans la traduction française du poète Bernard Noël. Travail que nous nommons « contre-fiction ». Il s'agirait là d'une histoire commune au milliardaire Vincent Bolloré et à celle qui peut plaire certains lieux dits du Liberia, de Sierra Leone ou d'ailleurs, avec Bédé, Ovieke, Sabo, Udzeba, Lemon, Igjobini, Okeora, Ekpan, Atorumu, Agudedzi, Ounmora, Owa, Nodzala, Pudjeun. La liste n'est pas exhaustive. Nous voudrions réécrire « Where the right things are » de façon tout à fait pragmatique pour raconter ce que peuvent deux mots, Vincent et Bolloré. Oui, pour raconter ce que ces deux mots peuvent faire là où des plantations s'agrandissent avec des EVA. Fermez les yeux, Répétez-vous cette phrase de « Where the right things are ». D'abord un arbre, puis deux, puis trois. Et visualisez bien, les yeux toujours fermés, des bidons d'huile, des jauges, les plantations gigantesques de la soque fine et des milices. N'ouvrez toujours pas les yeux. Vous allez relire « Where the right things are » avec 20 000 femmes, enfants, hommes qui ont des racines de force. Vous allez relire « Max et les maxi-monstres » avec des forêts d'EVA, encore et toujours, et dans le bruit des terres qu'on rase et des syndicats qu'on réprime, dans le bruit des maisons qui s'écroulent à coups de pelleteuse, vous parvenez à entendre cette phrase traduite par Bernard Noël. Et au lieu des murs, des arbres à perte de vue. Imaginez des poumons lourds de carbone à l'ombre des palmeraies, une terre rouge, orange. Il y aurait là de quoi se figurer une enfance qui s'accroche aux branches, hurle sous la lune, danse, brûle au sol. Pour le moment, notre contre-fiction aurait pour cadre spatio-temporel une Afrique fantôme porte de la Villette. Nous l'avons esquissée autour de ces trois points. Petit 1. Suite au dérèglement du climat et à la montée des eaux, chaque porte de la capitale est devenue une île que peuplent louves solitaires, orphelines, demandeuses d'asile, tas, princesses, clowns et rochers de Gibraltar. Ce sont des noms d'enfants avec de terribles crocs et de terribles griffes. Des noms d'enfants dangereux sur les ronds-points. De pure merveille. Petit 2. Bolloré, quant à lui, est devenu un nom commun pour désigner un croque-mitaine qui emporte tous les enfants morts dans les palmeraies. Petit 3. Chaque nuit, les enfants se mettent en cercle, se touchent les doigts et respirent ensemble, formant un craque-mur porte de la Villette. Ils font bouger leur corps, se penchent, s'étirent et se balancent les pieds fermement plantés en terre. Ils s'enracinent dans le goudron, ou plutôt s'imaginent que leurs pieds ont des racines qui s'enfoncent profondément vers le centre de la terre elle-même. C'est un rituel qui leur permet de nommer le croque-mitaine d'Afrique et de convoquer tous les fantômes d'enfants morts dans les plantations. Comme vous pouvez le constater, il ne s'agit là que d'une ébauche et qui mériterait d'être approfondie. Aussi comptons-nous beaucoup sur votre résidence pour en développer toutes les ramifications. Dans l'attente d'une réponse de votre part, je vous prie d'agréer, Monsieur Weinberg, les marques les plus démonstratives de mon estime. Date, samedi 3 octobre 2020, 23h44. Objet, éthique et chocolat à propos de merveilles du monde. À l'intention de Lydia M., directrice juridique en charge de la compliance des droits humains et de l'éthique chez Nestlé. Madame, je procède actuellement à une enquête sur les répercussions psychiques et matérielles des confinements successifs. Ou plus précisément, les répercussions psychiquement matérielles sur la population qui gravite porte de la Villette. Les premiers éléments de cette enquête m'amènent à m'inquiéter à propos de cette dignité de la personne humaine qui a été reconnue par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, intégrée, je vous le rappelle, par un juge administratif dans le célèbre arrêt du 27 octobre 1995 interdisant un spectacle de lancer de nains. De facto, vous n'êtes pas sans savoir que les politiques sanitaires auront occasionné d'autres spectacles, et peut-être aussi cruels que des lancers de nains. Toute une population confinée aura en effet dévoré des images de pornographie, de violences policières, ou bien des travelling au long des boulevards sur lesquels une nature, en l'espèce de faucon, biche ou alligator sur nos écrans, aurait repris ses droits. Si vous me demandez, et à juste titre, quel rapport cette absorption frénétique d'images peut avoir avec la compliance, l'éthique ou les droits humains chez Nestlé, je vous rappellerai un fait qui, pour aussi lointain qu'il vous paraisse, concernerait plus ou moins directement votre firme, qui produit à destination des enfants des tablettes de chocolat dans lesquelles se trouvent des images de la savane ou de la jungle. Images cartonnées de lions, d'hippopotames ou de cacatoès, le fameux chocolat merveille du monde. Et dont les tablettes, avec leur image, réactivent une pratique latine qui interroge notre respect du haut corps humain, et donc à l'intégrité corporelle qui ne cesse pas avec la mort. Cet acte social remonte à l'Antiquité. Néanmoins, ses racines se prolongent peut-être jusqu'à l'article R4127-2 alinéa 2 du Code de la santé publique. Oui, ces racines nous atteignent encore et d'une certaine façon, elle concerne tout autant vos tablettes de chocolat que le code de déontologie médicale. Nous parlons de cette pratique latine, Le mort s'accroupit par terre, sous la table, et durant le repas, les miettes, les pelures, les cartilages qui tombent le nourrissent. Les premiers éléments de notre enquête semblent indiquer que le cadavre, dans le droit romain, n'est pas tant une chose ou une propriété qu'une personne à part entière, et qui n'est pas vraiment morte, puisqu'elle s'alimente. On ne balaie donc pas, et quand l'odeur incommode, on invente des images au sol pour nourrir le fantôme. Mosaïque de pelures, de miettes, de grains. À défaut d'une table sous laquelle s'accroupir, c'est derrière nos écrans que nous formons une plèbe mal enterrée. Nous nous gavons de pixels comme autrefois les revenants latins de mosaïque. Aussi, ça n'est pas métaphore que de dire « nous devenons fantômes ». Par là, on nommerait simplement un acte social. Et par là, enfin, nous rejoindrions les enfants que Nestlé cible à travers Merveille du monde et ses images. Aussi, aurais-je quelques questions à vous poser. Petit 1. Depuis le début des confinements, avez-vous observé une hausse de la consommation du chocolat Merveille du monde? Petit 2. Votre service clientèle, durant ces derniers mois, aurait-il reçu de la part des consommateurs des demandes d'images précises et qui se démarqueraient des fauves ou pachydermes ordinaires? Petit 3. Si c'est le cas, pourriez-vous nous préciser quels en étaient les motifs? Et jugeriez-vous ces images spécifiquement poétiques? Petit 4. Trouveriez-vous cela éthique qu'on enterre les morts de la pandémie avec des tablettes de chocolat Merveille du monde? Et sinon, pourquoi? Comptant de tout cœur sur une réponse rapide de votre part, je vous prie d'agréer, madame, les marques les plus vives de ma considération. Date, samedi 31 octobre 2020, 23h51. Objet, re-éthique et chocolat à propos de Merveille du monde. À l'intention de Lydia M., directrice juridique en charge de la compliance des droits humains et de l'éthique chez Nestlé. Madame, nous tenions à vous communiquer quelques images qui trouveraient leur place dans vos tablettes de chocolat. Ce sont des images à destination d'enfants. Elles ne sont pas spécialement poétiques, mais portent en elles l'empreinte des voix poltergeist, d'une Afrique fantôme et autres merveilles qui peuplent la porte de la Villette. Certains d'entre nous les disent apotropaïques. Aussi, nous souhaiterions que votre film, au nom de la compliance des droits, trouve un accord avec les services mortuaires de la ville de Paris. Que ces images puissent être enterrées auprès de certains cadavres. Tous les morts sans rien du corona, les intubés seuls sous néons d'hôpitaux, les diabétiques au chômage, les migrants qui s'épuisent dans l'herbe malade, rescapés d'Alep et fuyant toujours, l'œil fou, les missiles de Bachar dans le bris du périph, ou les trans du Brésil qu'on poignarde sous un pont de bitume. Qu'on les enterre ou qu'on les brûle avec ces images pour enfants. Et puis ceux-là même qui hantent alors que non humains. Rats crevés au fond du square, supernova en phase implosive, front des veaux qui s'étoilent et leur souffle court de bête dans la nuit. Que tout cela se décompose et devienne matière à image. Oui, que tout cela qui meurt, remue et s'agite encore au bord des rocades, porte de la Villette ou ailleurs, trouve quelque repos sur ses tablettes. Merci.